Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 17 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Ce matin, nous reviendrons sur l'audition de Audrey Hanard devant la Chambre. Nous parlerons du marché du vélo qui a le vent en poupe, tandis que celui de l'immobilier ne se porte pas bien du tout, même à la côte belge. Les détails dans votre condensé d'actu business. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
Après la ministre des Entreprises publiques la semaine dernière, c'était au tour du management de Bpost d'être entendu en commission mobilité et entreprises publiques de la Chambre. Une audition sous forte tension pour la présidente de l'opérateur postal Audrey Hanard, soutenue par 3 membres du comité de direction. Elle a d'abord refait le point sur les dossiers litigieux en cours, mais elle a surtout voulu dessiner les contours d'une nouvelle entreprise. Écoutez.
Pour bâtir notre avenir sur des fondations stables, nous allons agir à 3 niveaux. Premièrement, faire la transparence sur les dossiers qui nous semblent à risque. Deuxièmement, agir au niveau du respect de la conformité partout dans l'entreprise. Et enfin, assurer notre stabilité d'un point de vue économique et financier. Ces derniers mois et ces dernières semaines ont souvent été compliqués, avec beaucoup de moments d'incertitude, mais nous devions affronter la réalité pour aller vers un mieux. Notre exercice de transparence ne s'arrête pas ici. Nous sommes déterminés à finaliser nos enquêtes. Nous tournons la page sur un certain nombre de pratiques pour aller vers un nouveau Bpost et construire notre avenir sur des bases saines et solides.
Histoire de mettre la pression, la NVA avait annoncé avant même l'ouverture des débats le dépôt d'une plainte au pénal pour de possibles faits délictueux dans l'entreprise. Le ton est donné, les députés ont balancé un feu nourri de questions sur les relations privilégiées d'Audrey Hanard avec le PS et avec certains cabinets. La présidente de Bpost a en tout cas réaffirmé qu'elle n'était pas sortie de son rôle et qu'elle exerce son mandat de façon autonome et transparente.
J'ai été nommée sur proposition du PS. C'est un secret pour personne, tout comme la moitié du CA de l'entreprise est nommée sur proposition de parti politique. Avant, pendant et après l'été 2022, des contacts ont effectivement été organisés avec les cabinets des vice-premiers ministres. Alors, lors de la réunion avec M. Dermagne fin août, effectivement, le président du Parti socialiste était présent et a participé à la discussion. À nouveau, cette réunion a eu lieu en toute transparence, au su de tous et en particulier du CA. Si vous me demandez si un contact avec le monde politique est une bonne chose, la réponse est oui. Il est utile que des contacts multiples soient pris afin d'informer le mieux possible les instances politiques de notre actionnaire majoritaire qui est l'État belge. Je travaille en transparence et en indépendance. Et en lien avec cela, je suis très à l'aise de vous dire aujourd'hui ici que j'ai rencontré en tout et pour tout 3 fois M. Magnette et 4 fois M. Dermagne dans ma vie. C'est tout.
Mais malgré ces propos assez rassurants, après plus de 4 heures de séance, pas sûr que le management de Bpost a réussi à convaincre les parlementaires, certainement pas ceux de la NVA. Retrouvez une interview d'Audrey Hanard dans l'Écho aujourd'hui ou sur nos différentes plateformes. Et dans la foulée de tous ces dossiers qui s'entassent sur le bureau de la présidente de Bpost, l'action de l'opérateur postal n'en finit pas de s'écrouler. Elle a encore perdu plus de 8% hier à la Bourse de Bruxelles. Et le dernier des analystes qui était encore positif sur la valeur vient de changer de discours. Il faut dire que Barclays a fait ses comptes et le broker chiffre à 600 millions d'euros le montant total des amendes et remboursements que Bpost risque de devoir s'acquitter dans les mois à venir. Compte tenu de ses capacités d'endettement, Bpost pourrait disposer de 350 à 400 millions d'euros pour faire face à ses frais. Il faudra bien trouver le reste quelque part et Barclays estime que cela pourrait être sur le dos de l'actionnaire qui se verrait privé de dividendes. L'analyste de Barclays reste malgré tout confiant dans la capacité de Bpost à dégager des bénéfices solides, mais les changements fréquents au poste de direction pèsent sur le sentiment du marché et ajoute là aussi un risque à l'exécution du plan d'affaires, selon Barclays. Imec, si vous vous y connaissez un peu en nouvelles technologies et l'univers des startups, vous connaissez sans doute ce centre de recherche de l'Université de Louvain qui a généré pas moins de 27 spin-offs ces 5 dernières années. Et en un peu plus de 10 ans, l'incubateur Imec iStart a soutenu 300 entreprises et levé plus de 700 millions d'euros. L'Imec vient d'ailleurs d'être reconnu comme le meilleur incubateur lié à une université dans un classement qui en recense tout de même plus de 3000. Principal mérite de cette récompense, le taux de survie des entreprises incubées et des spin-offs qui sont passés par l'Imec, comme l'explique Olivier Rousseau, le directeur investissement d'Imec Expand, qui chapeaute les spin-offs.
Aucune des startups qu'on a lancées sur base d'une technologie Imec aujourd'hui n'a été arrêtée par la technologie. Donc à chaque fois, pour les 27 cas qu'on a eus, la technologie fait le job. Pour les sociétés qu'on a au sein de l'accélérateur Imec iStart, on est assez sélectif sur les idées qu'on reprend et qu'on accélère. Et on a la chance que Imec soit vraiment tout à fait inséré dans l'écosystème tech au niveau global. On a accès en première main aux acteurs technologiques de premier plan à travers le monde. Et ça nous permet, quand on coach et qu'on suit une start-up, avec les conseils des équipes Imec et de l'écosystème Imec, on arrive réellement bien à percevoir le type de produit ou de service qui doit être offert pour être un succès sur le marché. Donc, c'est réellement une richesse. Et de même, on a, avec le nom Imec, un accès aux capitaux et un accès aux talents qui est favorisé par rapport à d'autres écosystèmes. Voilà, c'est quelques éléments qui peuvent expliquer cet état de fait.
Un marché qui se porte bien, c'est celui des vélos. En pleine pandémie, les ventes de deux roues avaient connu un sérieux boom en Belgique, mais les ruptures d'approvisionnement avaient créé de sérieuses pénuries et des délais de livraison très longs et surtout une envolée des prix. Mais aujourd'hui, les stocks sont à nouveau disponibles et les ventes repartent à la hausse. Près de 700 000 vélos ont été vendus l'année dernière, c'est 20% de plus qu'en 2021, et ce sont les vélos électriques qui se vendent le mieux. Les engins à assistance représentent presque la moitié du parc des nouvelles petites reines. Et visiblement, ce n'est pas le prix qui refroidit les acheteurs, ils continuent de grimper. Les résultats de KBC publiés hier matin n'étaient pourtant pas mauvais. Ils étaient même assez bons, mais visiblement, cela ne suffisait pas pour les analystes qui l'ont sanctionné hier. Le titre a perdu jusqu'à 7% en séance, 6% à la clôture. Pourtant, le bénéfice net de la banque a atteint 882 millions d'euros. C'est soit près de deux fois plus qu'il y a un an. Bonjour Xander Vlassenbroek.
Bonjour Sven.
Vous êtes un de nos journalistes spécialisés dans les marchés financiers. Alors, pourquoi cette punition en bourse ?
C'est que KBC, en fait, a du capital excédentaire qui est notamment lié à la vente de ses activités en Irlande. Cela devait se traduire par un rachat d'actions ou un dividende exceptionnel. Sauf que KBC a indiqué ici, avec ses résultats, que la décision n'avait pas encore été prise et qu'elle serait prise dans les prochains mois sur la redistribution de ses bénéfices. Et puis, il y a encore un autre élément que les analystes ont pointé du doigt, c'est qu'au cours du trimestre, on a vu que les clients de KBC avaient déplacé leur argent des comptes classiques vers les comptes à terme chez KBC même, ce qui se traduit donc par des meilleurs revenus pour les clients, mais pas vraiment pour KBC, qui doit donc rémunérer ses comptes de façon plus importante.
Merci Xander. Quand on vous disait que l'immobilier était en plein ralentissement, eh bien même à la côte belge, rien ne va plus. En 2021, juste après le confinement, on avait connu une envolée des transactions du fait de gens à la recherche d'espace et de grand air. Par contre, l'année dernière, c'est plutôt marée basse, avec une baisse de plus de 14% du nombre de transactions recensées par les notaires. C'est une baisse bien plus forte qu'en Flandre et que pour l'ensemble du royaume. Et 2023 devrait continuer sur cette lancée au vu des chiffres du premier trimestre. Les transactions baissent encore de 14% par rapport à la même période l'année dernière. Hormis West End, toutes les communes du littoral sont en recul, Coxyde et Knokke de plus de 20%, Nieuport et Zeebrugge de plus de 18%, ce qui n'empêche pas pour autant les prix de grimper encore. Un appartement moyen à Knokke dépasse pour la première fois les 650 000 euros. Et tant qu'on parle d'achat immobilier, une petite piqûre de rappel pour notre Tuto Immo, la série de podcasts qui vous aide dans votre acquisition. Dans ce cinquième épisode, vous allez entendre le début d'une visite d'appartement en compagnie de Céline Di Egidio, qui est architecte. Elle va vous aider à dresser l'indispensable liste des points à vérifier quand on visite un bien.
Que ce soit l'extérieur du bâtiment et les communs sont des éléments très très importants à regarder parce qu'ils présagent de la manière dont la copropriété gère l'ensemble du bâtiment.
Il vaut mieux se faire une petite checklist avant de commencer une visite en fait ?
Sûrement, très sûrement. Déjà, demander tous les documents de copropriété, les AG peut-être même, qui permettront de déterminer quels frais sont à prévoir à l'avenir dans l'immeuble qui potentiellement coûteront de l'argent après l'acquisition du bien. Voilà, donc en rentrant dans l'appartement, déjà c'est important de regarder la disposition des pièces, les hauteurs sous plafond.
Pour écouter la suite, abonnez-vous à Tuto Immo, le podcast de l'Écho qui accompagne les futurs acquéreurs dans l'achat de leur premier bien immobilier. Vous le trouverez sur les plateformes d'écoute et sur l'écho.be. Rouge, les grands escaliers du palais des festivals, les photographes qui se bousculent sur la croisette pour traquer les stars entre deux plateaux de télé, ça, c'est l'image glamour du festival de Cannes, la grand-messe du cinéma. Mais il y a aussi, et surtout, un côté très business à Cannes, un grand marché du cinéma qui porte sur des centaines de millions. On évoque des volumes d'affaires allant de 500 millions à 1 milliard d'euros. Un grand marché où les producteurs viennent présenter des films aux vendeurs internationaux, mais où ils viennent aussi chercher du financement pour les nouveaux projets. Cette année, plus de 13 000 professionnels issus de quelques 130 pays ont été accrédités. Difficile de se faire remarquer dans cette masse, comme l'explique Jean-Yves Roubin. Il est CEO de la société de production Farkas et président de l'Union des producteurs de films francophones.
Il y a une certaine concurrence, évidemment. Après, je pense que la Belgique a une très très belle réputation à Cannes de par la qualité des talents et évidemment les projets qu'on amène à Cannes. Il y a 5 films majoritaires quand même sélectionnés à Cannes. Et puis, par rapport aux coproductions qu'on peut ramener dans notre pays, on a un système de financement qui est quand même très très intéressant pour les producteurs étrangers. Donc forcément, il y a beaucoup de demandes de producteurs étrangers de rencontrer des productions belges.
C'est le japonais Kore-eda qui ouvre le bal à Cannes avant Catherine Corsini qui doit présenter son film Le Retour. Laurent Fabry était à la production de cet épisode. N'hésitez pas à nous écouter tous les jours. Et pour vous faciliter la tâche, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast et sur l'écho.be. Demain, il n'y aura pas de brief, mais nous serons là vendredi. À très vite.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.